la paix. Il est 12h. Le journal de midi. Didier Blé.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous retrouver pour cette édition de midi. Quel doit être le rôle de l'administration dans le processus électoral, durant la campagne et dans le processus de manière générale? Radio de la Paix a choisi de s'y intéresser. Élément de réponse avec le docteur Landry Amoussou, enseignant-chercheur au département de droit à l'université Pélé-Fourougon-Coulibaly de Korogo. La phase 2 du programme de lutte contre la fragilité dans les eaux frontalières du Nord a été lancée à Ferkessédougou le vendredi 7 juillet, cérémonie couplée avec la phase 3 du PGDEC dans la région du Tchologo. Sur le continent, le bloc des pays d'Afrique de l'Ouest a nommé hier dimanche le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, à la tête de la CDAO, en remplacement du dirigeant bissau-guinéen Oumaru Sissoko Embalo. Dans cette édition, vous suivrez un dossier d'actualité relatif aux difficultés d'approvisionnement en volaille à Divo, dossier proposé par Abel César Cassin. Et puis, dans les dernières minutes, vous suivrez l'invité de la rédaction, Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique, sera en compagnie de Jean-Claude Comé. Il se prononcera sur les possibilités qui s'offrent à l'ancien président Laurent Gbagbo après le rejet de la CEI de son inscription sur la liste électorale. Excellente mi-journée, bienvenue à tous. Quel doit être le rôle de l'administration dans le processus électoral? Implication de l'administration dans la campagne électorale et au niveau des élections, tout acte posé dans la gestion des échéances électorales doit être guidé par le principe de la neutralité. Dans ces conditions, quel doit être le rôle de l'administration durant la campagne et dans le processus électoral de manière générale? Élément de réponse avec le docteur Landry Amoussou, enseignant-chercheur au département de droit à l'université Pélé-Fourougon de Korogo.
La question est délicate parce que notre administration a à sa tête des hommes politiques. Le chef de l'administration, c'est le président de la République. Donc, effectivement, la limite est assez fine entre le politique et l'administration. Il revient surtout à l'administration de faire attention et de ne pas mélanger le politique et l'administratif. La constitution, elle est claire. Le chef de l'administration est un homme politique, c'est le chef de l'État. Donc, dans la conduite des élections, il revient à ses responsables administratifs de faire preuve du droit de neutralité, mais également d'impartialité dans la gestion de ces élections, parce que ça prête à confusion. Parce que quand la limite n'est pas bien établie, c'est le problème qu'on retrouve dans nos pays africains. C'est un cercle vicieux que les États africains doivent effectivement apprendre à gérer. On peut être un homme politique, c'est vrai, on peut gérer une administration, mais le mélange du genre pose inévitablement des problèmes d'éthique, des problèmes pour lesquels il faudra qu'on mène encore d'autres réflexions. Au niveau des campagnes électorales, il y a des administrateurs, c'est-à-dire ceux qui occupent des hauts postes de l'administration, qui sont également des hommes politiques. Donc, dans l'imaginaire collectif, on se dit, ben, est-ce que c'est pas avec notre agent qu'ils ont déjà fait les campagnes? Parce qu'on n'arrive pas bien à semer la différence entre sa casquette d'homme politique et sa casquette d'administrateur. Lorsqu'on va atteindre une certaine maturité, je crois qu'il y aura un code de bonne conduite à respecter. Parce qu'on voit que parfois même des véhicules de l'administration sont mobilisés dans les campagnes. C'est-à-dire, on va masquer la plaque jaune par des plaques banalisées, mais on sait tout ce que ça, c'est la voiture de l'administration. On n'a pas impliqué le matériel, le personnel de l'administration dans les campagnes électorales.
Docteur André Amoussou, enseignant-chercheur au département de droit à l'université Pélé-Fourougon de Korogo. Le volet insertion des jeunes lancé en 2022 a permis de prendre en compte 22 912 jeunes pour 9,663 milliards de francs CFA. Dans cette optique, 6 régions ont été prises en compte, à savoir le Bounkani, la Bagoué, le Folon, le Poro, le Kabadougou et le Tchologo. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, au terme de cette première phase, a dressé un bilan chiffré, et ce, à l'occasion du lancement de la deuxième phase de ce programme. Touré Mamadou, dans les propos recueillis par Marcel Bouni.
À l'issue donc de l'atelier bilan, les résultats ont révélé que ce sont 23 892 bénéficiaires qui ont été pris en charge, soit un taux de réalisation de 104%. Par dispositif, ces résultats se décrivent comme suit. 2107 bénéficiaires formés à travers les formations de reconversion, de formation et d'apprentissage. 1535 bénéficiaires pris en charge pour l'obtention donc des permis de conduire. 1846 bénéficiaires vulnérables pris en charge donc dans les TIMO. 5759 bénéficiaires donc de projets de financement des AGR et 204 accompagnés pour les projets de micro et petites entreprises formelles. 6002 acteurs du secteur informel qui ont eu une subvention individuelle de 250 000 francs chacun. 441 jeunes volontaires mis en activité au service des projets communautaires. et 6 000 bénéficiaires enrôlés pour les activités des associations villageoises des Pays du Crédit. Et ces 6 000 personnes sont réparties dans 240 villages, donc dans ces 6 régions.
Entouré Mamadou, ministre de la Jeunesse, de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Programme de lutte contre les fragilités dans les zones frontalières du Nord et lancement du PGDEC, projet d'emploi des jeunes du développement de compétences dans la région du Kologo, PGDEC 3. La ville de Fernkissédougou a accueilli le vendredi 7 juillet la cérémonie de lancement officiel des activités 2023 de ce programme. À travers ces mécanismes, le gouvernement ivoirien et ses partenaires techniques et financiers accompagnent l'ensemble des populations de 6 régions du Nord vers l'autonomie et l'insertion professionnelle. Les échos de la cérémonie avec Marcel Bonny.
Pour l'année 2023, déclarée celle de la jeunesse, l'objectif de la composante insertion professionnelle et emploi jeune connaît un bond considérable et ses chiffres, communiqués par Tene Birima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense par ailleurs, président du Conseil régional du Tchologo, l'attestent.
Il est prévu pour l'édition 2023 de prendre en charge sur l'ensemble des 6 régions 30 632 bénéficiaires pour un budget de 12 milliards 300 millions.
Et cela s'explique.
L'augmentation du nombre de bénéficiaires à prendre en charge en 2023 exprime la volonté du gouvernement d'intensifier davantage la prise en charge socio-économique et de garantir un avenir meilleur aux grandes populations des régions du Nord de notre pays.
Garantir un avenir meilleur aux populations qui, en retour, doivent intégrer ce message de Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique.
C'est pourquoi vous ne devez pas intenter, ça je m'adresse aux jeunes, de céder aux promesses et contributions d'individus. Vous devez agir de façon citoyenne, en dénonçant aux forces de sécurité tout comportement susceptible de mettre en péril la paix sociale.
Les populations des régions de la Bagoué, du Bonkani, du Folon, du Kabadougou, du Poro et du Tchologo sont donc invités à s'approprier tous ces mécanismes qui leur permettront de contribuer au développement économique et social de leur région et au-delà de la Côte d'Ivoire. De faire que c'est Dougou Marcel Bonny Korogo, Radio de la Paix.
Économie dans la sous-région, les taux d'inflation en Côte d'Ivoire, au Niger et au Bénin ont connu une baisse par rapport au niveau général de l'inflation dans l'espace UEMOA. Et ces trois pays affichaient respectivement des taux de 5,4%, 2,5% et 1,2% en mai 2023, alors que le taux moyen dans l'espace est de 6,8%, ce qui ressort de la note de conjoncture économique dans le pays de l'UEMOA, produite par la BCAO. Comment interpréter ces niveaux d'inflation de ces trois pays comparativement aux autres et quelles sont les conséquences sur leurs économies? L'éclairage du docteur Germain Cramo, chercheur à la CAPEC, il a été joint par Jean-Claude Comé.
Nous sommes dans une situation où, au niveau mondial, il y a l'inflation. Il va falloir maintenant savoir quelle est la politique qui sera mise en œuvre pour pouvoir ramener ce qui est autour de 5% aujourd'hui à 2,4% en moyenne. C'est vrai que même quand on dit une moyenne, on peut avoir des taux de 5% pour une année et puis pour les autres années avoir des taux faibles. C'est plus important de savoir quelle est la politique mise en œuvre pour pouvoir avoir ces 2,4%, sachant qu'au niveau international, nous avons une pression inflationniste.
5,4% en mai 2023 déjà. Est-ce qu'on peut dire que les efforts sont faits pour contenir cette inflation là?
Oui, on peut dire oui et non. Oui, parce que nous voyons que les taux directeurs de la BCAO ont été révisés. Viser ces taux ne va pratiquement pas influencer grand chose au niveau de l'inflation. Maintenant, comment vont évoluer les récoltes au niveau des produits de grande consommation avec la pluviométrie qui se balance dans les pays sahéliens et aussi avec les crises qui affecte la production agricole. Voici un peu des éléments qui vont influencer ce niveau d'inflation. Et au niveau mondial aussi, avec la crise ukrainienne, ça se poursuit. C'est vrai que ces derniers temps, le prix du baril du pétrole connaît une certaine stabilisation. Mais vous voyez que ce sont les éléments qui influencent beaucoup nos différents prix. Donc vraiment, il faudrait qu'on ait des politiques vraiment assez volontaristes au niveau de l'agriculture pour avoir une production assez importante et aussi contrôler un peu l'inflation qui sera certainement importée avec la hausse du prix du baril du pétrole.
Voilà, c'était donc notre interlocuteur, Germain Cramo, chercheur à la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES. Il a été joint par Jean-Claude Comé. Brevet d'études de premier cycle, nous sommes dans l'éducation, BEPC. Nous avons également un test d'orientation en seconde. Les résultats ont été publiés par la DECO. Pour la session 2023, 176 606 candidats sont déclarés admis sur 561 188 candidats, soit un taux national d'admission de 31,47% contre 28,89% en 2022, annonce faite récemment au cours d'un point de presse mercredi dernier. La réaction du CINESSI, le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, par la voix de son secrétaire général national, Ekoun Kouassi.
Nous avons eu cette année 31,47%, nettement en hausse par rapport à l'année dernière. C'est un chiffre qui est encourageant. Mais des résultats en deçà de 50%, on ne peut pas se réjouir. Ce qui doit interpeller la communauté éducative de la nation, qu'au niveau de ce secteur, beaucoup reste encore à faire. Et tous les acteurs devront comprendre que les résultats ne sont pas pour le moment satisfaisants. Et donc nous devons tous redoubler d'efforts pour que vraiment on ait des résultats meilleurs, pour que demain la Côte d'Ivoire ait une ressource humaine de qualité. Je voudrais remercier tous les enseignants de Côte d'Ivoire qui, dans des conditions difficiles, ont pu achever les programmes. Je pense qu'ils ont contribué énormément et chaque année, ils font des efforts pour qu'on ait une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Mais beaucoup reste à faire. Il faut qu'on commence à se pencher véritablement sur la condition de travail et de vie des enseignants de Côte d'Ivoire. C'est la base d'une éducation de qualité. Tant que nous serons dans les conditions que nous vivons actuellement, ce sera difficile. Effectif pléthorique, environnement scolaire inapproprié. C'est vrai que les choses avancent lentement. Au niveau de l'éducation nationale, des états généraux ont été faits. On attend toujours de façon officielle que les résultats soient publiés. C'est vrai, nous avons notre part de responsabilité en tant qu'enseignants. Mais le gros de boulot, c'est au niveau de l'état de Côte d'Ivoire qu'il faut regarder en commençant à donner des conditions meilleures de travail aux enseignants de Côte d'Ivoire.
Ekoun Kouassi, secrétaire général national du syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire. BPC, session 2023, on en parle toujours. Le résultat s'est bonifié cette année avec un léger saut qualitatif. C'est le constat fait par le président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Cependant, Claude Akakadio souhaite que la moyenne soit atteinte pour faire de l'école ivoirienne une école de qualité. On l'écoute.
Je voudrais féliciter et remercier tous ceux qui ont participé à ce que le BEPC se tienne. Et je constate avec satisfaction que le résultat s'est bonifié cette année. Il y a un petit saut qualitatif en avant. Cela nous démontre bien qu'un travail est en train de se faire réellement au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau des parents d'élèves, au niveau des associations des parents d'élèves. Et donc, toutes ces personnalités ont contribué à donner le résultat que nous voyons. Cependant, nous n'avons pas encore atteint la moyenne, soit 50 sur 100. Nous n'avons pas atteint encore cela. Et je crois que avec le concours de chacun et de chacune, le concours de tous, nous y arriverons. C'est pour ça que je voudrais saluer tout le travail que le ministre est en train d'abattre depuis qu'elle est nommée à la tête de ce ministère que j'appelle un ministère à problème. Malgré tout, nous avançons et nous en sommes satisfaits pour l'instant. Mais nous demandons toujours qu'on avance pour atteindre la moyenne et aller au-delà de la moyenne pour donner l'allure, cette fierté, à une école de qualité que tout le monde appelle de ses vœux.
Claude Akakadio, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Actualité sur le continent, les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont choisi hier, dimanche 9 juillet, le nouveau président nigérian Bola Tinubu pour diriger en 2024 la CDAO, en remplacement du dirigeant bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo, s'exprimant lors de ce sommet après avoir été nommé président de la CDAO. Bola Tinubu a déclaré que la démocratie était la meilleure forme de gouvernement, bien qu'elle soit très difficile à gérer. Il a demandé de ne plus permettre qu'il y ait de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Le président de la commission de la CDAO a exhorté donc les juntes du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso à respecter les délais convenus pour remettre le pouvoir à des dirigeants civils. Et puis présidentiel au Gabon, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba sera bien candidat à la présidentielle du 26 août prochain. Il a annoncé hier dimanche 9 juillet lors d'un déplacement près de Libreville. Il briguera ainsi un troisième mandat. La constitution gabonaise ne prévoyant pas la limitation des mandats présidentiels dans l'assistance, la nouvelle a ravi les partisans du président. Ali Bongo, 64 ans, dont 14 ans passés au pouvoir, sera adoubé par son parti lors d'un congrès extraordinaire ce lundi dans la capitale gabonaise. Sans plus tarder, passons au dossier d'actualité. Nous nous rendons dans la ville de Divo. Depuis plusieurs semaines, les vendeurs de poulets du grand marché de Divo ont du mal à s'approvisionner en volaille. Double conséquence, la flambée des prix et une menace réelle sur leurs activités. Notre correspondant régional, l'Abel César Cassin, s'est intéressé à ce sujet.
Depuis une dizaine d'années, Djedji Tanguy est vendeur de poulet au grand marché de Divo et nous décrit la contingence actuelle.
Maintenant, comme les poulets ont disparu, donc pour avoir mais c'est difficile. Mon grand frère comme ça, lui prend 50 par jour. Sinon, on vend des 300, 200, mais maintenant ça diminue. C'est le boulot, donc on ne peut pas rester à la maison, donc nous sommes obligés de venir au marché chaque jour.
Sembe Awa a renoncé à la vente de poulets de chair. Elle nous en donne les raisons.
On est africain, pentade, on se débrouille pour le moment. Bon, vraiment, on comprend. D'autres par la fin de l'aliment, qui est aliment devenu cher, donc les éleveurs, là, il y a beaucoup qui ont arrêté de faire poulet. Donc le peu qu'on fait là, c'est plus suffisant pour la population de Divo. Pour le moment, il n'y a rien d'abord. Quand on vient les matins, ça sort en cause. On commande à Daloa, va voir pour que ça vienne. Pentale aussi, souvent, ça quitte à boire.
Sabadogo Alassane affirme également que ce n'est plus facile de s'approvisionner en poulet traditionnel.
Avoir Burkina qui nous donne un peu, mais actuellement, bon, Burkina même, ce que nous versons ici à 2500, Burkina c'est 3500 francs.
Les rares vendeurs qui ont encore des poulets les revendent cher. Le cas du jeune Sembe Aboubakar qui revend des poulets d'un mois.
Ce poulet-là, quel est son poids?
Son poids, 1,8 kg, 1,10 kg. On peut le vendre à 2200, 2300. C'est devenu plus grave. Vend, on prenait à 1800, maintenant on prend à 2200. Le même poulet, mais c'était gros que ça.
Oudraigo Djibril emploie 7 jeunes gens dans l'abattage et le plumage des poulets. Son témoignage.
Je vois aujourd'hui qu'il y a moins de poulets, il y a moins de personnes qui sont en train de plumer les poulets.
Effectivement, ça fait aujourd'hui, je crois bien si je ne me trompe pas, le début du mois de jeûne. Ramadan jusqu'à aujourd'hui, il y a des ruptures assez fréquentes même, il n'y en a pas. Bon, pour celui qui a les moyens, il se déplace, il va jusqu'à Yiblekourou pour s'approvisionner.
Dans le périmètre de la ville, les fermes avicoles sont devenues rares. C'est à Groubiasouné, à une douzaine de kilomètres de Divo, que nous avons eu la bonne fortune de rencontrer Dago Odje Emile, député. C'est un homme aujourd'hui désabusé.
Présentement, j'ai plus de 100 têtes dans mon poulailler. Et c'est les coquelets qui ont plus de 6 mois. J'ai été l'autre jour à Divo pour approcher 2 ou 3 revendeurs. Ben, ils ont carrément cassé le prix qui ne m'arrange pas. Les denrées alimentaires sont extrêmement chères.
Et voilà, si le prix des aliments pour volailles continue à grimper, il est à parier que dans quelques années, il n'y aura plus de poulets à vendre dans les marchés de Divo. Abel César Cassin, Radio de la Paix.
À présent, l'invité de la rédaction ce jour est Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à l'ancien président Laurent Gbagbo après le rejet par la commission électorale indépendante de son recours administratif pour son inscription sur la liste électorale? Dans cet entretien, Geoffroy Julien Kouaou répond aux questions de Jean-Claude Comé.
Geoffroy Julien Kouaou, bonjour.
Bonjour Jean-Claude Comé.
Récemment, dans un communiqué, le PPACI a annoncé le rejet de recours formulé par l'ex-président Laurent Gbagbo en ce qui concerne le contentieux sur la liste électorale. Est-ce que c'était une décision qu'on prévoyait déjà?
Le rejet du recours administratif de M. Laurent Gbagbo devant la CEI ne surprend guère l'observateur de la vie politique ivoirienne que je suis, en ce sens que la commission électorale affirmait urbi et orbi qu'elle ne revenait pas sur sa décision tant que M. Laurent Gbagbo ne présentait pas des faits nouveaux. En l'espèce, ce ne fut pas le cas. C'est donc un rejet qui ne me surprend pas. La CEI donc attend de M. Laurent Gbagbo qu'il lui produise un document justifiant de l'effacement de cette condamnation. Ce que, à l'évidence, selon la CEI, M. Laurent Gbagbo n'a pas pu produire.
Alors, mais ses partisans rétorquent justement que sur la base de son acquittement par la justice internationale, il est absous quelque part par rapport à cette décision de condamnation pour le casse de la BCAO. Est-ce que pour vous, c'est un argument qui tient?
Non, ce sont deux situations juridiques totalement différentes. La Cour pénale internationale est une juridiction internationale qui a relâché M. Laurent Gbagbo. Les juridictions ivoiriennes sont des juridictions nationales qui poursuivent M. Laurent Gbagbo pour des faits totalement différents. Là où on pourrait faire une jonction, c'est par rapport à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme d'Arusha qui a demandé la réintégration de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et c'est un dossier qui a été joint dans le recours de M. Laurent Gbagbo. Cependant, la CEI, de par l'entremise de ses porte-parole, affirme que cette décision n'est pas reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, donc ne peut produire d'effet juridique dans l'ordre interne ivoirien.
Dans ce communiqué produit par le PPACI, ce parti affirme que la CEI a opéré une manœuvre politicienne. Est-ce que vous avez la même lecture?
Non, je ne pense pas. La CEI est une institution administrative qui a une compétence liée. La CEI ne peut radier une personne sur la liste électorale que sur les faits définis par le code électoral. La CEI n'y est pour rien. Je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est un recours juridictionnel. Le code électoral permet à M. Laurent Gbagbo, dans un délai de 3 jours après le prononcé de la décision de la CEI, de saisir le tribunal de première instance compétent et le président du tribunal a 5 jours pour rendre une décision.
La voie judiciaire, mais c'est seulement cette voie légale qui s'offre donc à Laurent Gbagbo.
Au-delà de cette voie judiciaire, Laurent Gbagbo peut aussi demander qu'il bénéficie d'une mesure d'amnistie. Cette mesure d'amnistie ne peut intervenir qu'avec un acte du Parlement. Et donc, Laurent Gbagbo va certainement demander aux parlementaires d'initier une proposition de loi ou au président de la République d'initier un projet de loi. Dans tous les cas de figure, cette voie politique allant dans le sens d'une prise de mesure d'amnistie a très peu de chances de prospérer parce que M. Laurent Gbagbo ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale, encore moins au Sénat. Même avec le soutien de ses alliés potentiels comme le PDCI, RDA, il reste toujours minoritaire. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'établir un rapport de force politique. Et ce rapport de force politique passe par exemple par les échéances électorales du 2 septembre 2023 prochain.
Généralement, à la veille de la fête de l'indépendance, il y a un discours à la nation. Est-ce que à ce niveau-là, il serait souhaitable justement pour l'apaisement que le chef de l'État puisse prendre ce projet de loi d'amnistie pour qu'il y ait des élections sans heurts?
Non, en politique, ce qui compte, ce n'est pas le souhaitable, ce sont les faits. Et là, M. Alassane Ouattara est un homme politique. Et il ne va pas faire de cadeau à son potentiel adversaire de 2025, qui est M. Laurent Gbagbo. En ce sens qu'aujourd'hui, le rapport de force entre les deux est en faveur du président du RHDP. Il a la majorité au Parlement, la majorité des communes, la majorité des régions. Il ne voit pas pourquoi, dans un tel contexte, il ferait un cadeau royal, voire présidentiel, à M. Laurent Gbagbo.
Est-ce que le climat ne pourrait pas expliquer aussi cette décision, le climat sociopolitique, parce qu'une élection doit se passer aussi dans la paix?
Oui, c'est ce que vous appelez le souhaitable, mais pour l'instant, je ne vois pas M. Alassane Ouattara aller dans ce sens, parce que le rapport de force politique est en sa faveur. Regardez bien, lorsque en 2005, M. Laurent Gbagbo active l'article 48 de la Constitution pour permettre à M. Alassane Ouattara d'être un candidat exceptionnel, c'est parce qu'il était en position de faiblesse. Au niveau national, une partie du territoire était occupée. Les principales forces de l'opposition s'étaient mises ensemble dans le cadre d'un regroupement qu'on appelle le RHDP. Et Laurent Gbagbo était, sur le plan international et national, donc isolé politiquement. C'est dans ce contexte de rapport de force en sa défaveur qu'il a été contraint de prendre l'article 48 pour permettre à M. Ouattara. Or, aujourd'hui, le contexte a totalement changé. Le rapport de force est en faveur de M. Ouattara, comme je vous le disais.
Geoffroy Julien Kouaou, je vous remercie.
Je vous remercie, Jean-Claude Comé.
Voilà, c'était donc notre invité du jour, Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique, invité de la rédaction, répondait à Jean-Claude Comé. Fin de ce journal, le rappel des titres. Quel doit être le rôle de l'administration dans le processus électoral durant la campagne et dans le processus de manière générale? Radio de la Paix a choisi de s'y intéresser. Vous avez entendu dans cette édition Dr Landry Amoussou, enseignant-chercheur à l'université Péléphorogon de Korogo. La phase 2 du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord a été lancée à Ferme-Kessé-Dougou vendredi. Cérémonie couplée avec la phase 3 du PGDEC dans la région du Tchologo. Et puis sur le continent, le bloc des pays d'Afrique de l'Ouest a nommé hier dimanche le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, à la tête de la CDAO, en remplacement du dirigeant bissau-guinéen, Oumarou Sissoko Anbalo. L'information revient à 15h sur nos antennes. Excellente mi-journée. Dans quelques instants, retrouvez pour la revue de presse Saoussi Poutin.
Bonjour à toutes et à tous. Certains de nos tabloïds parus ce jour se sont intéressés à la récente édition